Oui, bonjour à toute l'équipe. Je viens de voir les images d'Irak où les Américains semblent en difficulté. Je voudrais venir en aide à Monsieur Bush. Il pourrait appeler chez nous un spécialiste qui pourrait peut-être lui trouver une solution. C'est Romain Goupil.
Salut Mermet, ici Caen, EDF Caen, aujourd'hui dans la rue, et je crois que ça suit. On a commencé par couper les postes ce matin, mais je crois que c'est le premier coup de semence, ça va pas s'arrêter là. On va essayer de voir ce que ça va donner par la suite, mais pour une fois les gens ont l'air décidés à se bouger, alors on va en profiter. Apparemment c'est pareil au niveau national, donc espérons que ça va suivre le mouvement. Salut, à plus.
Je sais que ça s'est fait dernièrement, que dans certaines régions, les syndicats remettraient l'électricité aux gens à qui on a coupé ou à qui on leur a coupé parce qu'ils n'avaient pas pu payer. Alors aujourd'hui, je fais un appel à tous les grévistes. C'est ça la solidarité, parce que je fais partie de cette population des exclus. Alors remettez-nous l'électricité, remettez-nous la lumière. Ça c'est une belle action de solidarité. Et je voudrais juste aussi dire que de toute façon, c'est pas une faveur. Si on en réfère à, je rappelle qu'il y a une loi d'orientation du juillet 98.
Salut, c'est Pierre à Rouen. Un petit message pour annoncer la manif du RAP, résistance à l'agression publicitaire. Rassemblement devant la cathédrale de Rouen demain samedi 10 avril à 14h pour déverser symboliquement les tonnes de publicité reçues dans nos boîtes aux lettres. On estime ce gâchis à 40 kilos par an et par boîte aux lettres. Venez nombreux, à demain.
Allô, bonjour, c'est ici l'autruche à l'envers de Laval. Je vous invite à ne plus enfouir votre tête dans le sable en vous joignant à nous samedi 10 avril à partir de 15h30 à la salle de l'Étoile pour une journée de débat sur le thème de l'observation critique des médias, suivi d'un banquet et d'un concert. À samedi.
Salut à tous, salut Daniel. À Charbourg, dans le Nord-Cotentin, s'ouvrira le 23 et 24 avril le premier forum de la santé et de la solidarité, axant la réflexion autour de la situation locale. Une vingtaine de formations d'associations politiques, syndicales tiendront les stands autour des tables rondes où professionnels et acteurs de santé confronteront leur point de vue avec la population. Pour nous aider, Patrick Allou et Jean-Claude Salomon viendront étoffer ce forum en exposant leur vision de la Sécu et de la marchandisation de la santé. C'est donc un événement qui se prépare sur Charbourg le vendredi 23 à l'Omnia et le samedi 24 avril à la salle des fêtes où évidemment animation et concerts figurent bien entendu au programme. C'était Attaque Nord-Cotentin.
J'écoute avec la chair de poule vos extraordinaires reportages sur le Rwanda pendant lesquels on entend et on apprend des choses complètement dingue, comme dit monsieur de Saint-Exupéry, mais je bondis à chaque fois que l'on me culpabilise sur ce qui s'est passé. Je ne serai jamais responsable d'une décision politique qui a relevé du secret d'État. On élit des présidents, oui, mais on ne les contrôle plus. Dommage. En fait, je rêve qu'à chaque émission, Mitterrand se retourne dans sa tombe. Salut, c'était Christophe de La Rochelle.
Ça vous coupe le souffle, ça vous démolit, ça vous cogne dans la gueule, c'est fait au couteau, à la machette, au poignard. C'est hallucinant de vérité, pour le rouge, on écrit avec du sang, en direct, et ça vous donne envie de vomir, de hurler, de chialer, et c'est extraordinaire. Je répète très souvent la même chose, j'ai à peu près le même âge que vous, Daniel Mermet, et on fait le même travail. Oui, moi je suis médecin, et vous, vous êtes thérapeute aussi, thérapeute de la mémoire, parce que il y a un truc abominablement douloureux, c'est de ne plus parvenir jamais à oublier, mais il y a pire. Le pire du pire, c'est de perdre la mémoire. Et on fonctionne exactement pareil, en tout cas on peut jouer de la même façon. T'as mal à la tête, analyse et médicaments pour la tête. T'as mal au pied, radio du pied. T'as mal au Rwanda, radio du Rwanda. Et puis du mercurochrome pour la couleur. Ou alors, t'as mal à ton âme, où elle est ta vie. T'as mal à ta vie, où elle est ton existence. T'as mal à ton existence, où elle est ta conscience. T'as mal au Rwanda, analyse, dissection, chirurgie, mémoire du Rwanda. Et puis pour la couleur du sang, celui de la douleur, de la réalité. Dans vos reportages, il y a aussi ces moments de silence absolument terrifiants. Ceux où on n'entend plus battre que sa conscience. Elle fait un bruit effroyable.
Moi, quand j'entends de tels témoignages, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de partir, je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que c'est atroce. On pleure, on a mal quand on entend Ferdinand raconter ce qu'il a. On n'en peut plus. Mais je voulais dire aussi que pas plus tard qu'aujourd'hui au marché, j'entendais des imbéciles, des ignorants. Comment faut-il les appeler, ces gens-là? En plus, ils sont sûrs d'eux, de ce qu'ils avancent. Ils ne cherchent même pas à apprendre, à connaître. Ils disent tout simplement, ben, ceux qui ont fait ça, c'était des gens qui n'allaient pas à l'école, qui n'étaient pas cultivés, ils sont pas comme nous. Et j'en ai marre d'entendre ça, j'en ai marre. Au revoir.
Voilà, on continue aujourd'hui avec Valentine Rwanda, toujours au Rwanda. On a beaucoup parlé, après le génocide il y a 10 ans, de réconciliation. Réconciliez-vous, comme s'il fallait le décider. La justice a beaucoup de mal à s'exercer, évidemment, suite à une catastrophe de cette envergure. Et aujourd'hui, on va essayer une confrontation avec le désir des uns et des autres, de chaque côté, c'est-à-dire du côté des victimes et du côté des condamnés, du côté des bourreaux. On va essayer, non pas une réconciliation, il nous appartient pas de réconcilier, mais au moins de confronter, de voir si, lorsque des gens acceptent d'être confrontés, que se passe-t-il entre eux. Auparavant, une précision, il y a eu une erreur quelque part en transmettant un numéro de téléphone suite à une émission sur le surendettement. On a mal indiqué le numéro de téléphone auquel il fallait s'adresser et donc il y a une dame qui nous a appelé en disant, oh là là, c'est terrible, on m'appelle, alors que j'ai rien à voir avec ça. Donc l'erreur est la suivante: 01 64 20 32 87, 01 64 20 32 87, ne faites plus ce numéro. La dame qui est au bout n'a rien à voir avec la question du surendettement. Par contre, l'association concernée, c'est le 01 64 30 32 87. 01 64 30 32 87, voilà pour le surendettement. Ok, j'espère que ça va s'arranger comme ça. Ça suffira, cette petite annonce suffira. Une autre petite annonce, vous rêvez évidemment de voir Miguel Benassayag vivant avec ses avec sa croix, sa couronne d'épines. Eh bien, vous pourrez le faire le 19 avril, lundi 19 avril, à la Maison d'Amérique latine au boulevard Saint-Germain, 217 boulevard Saint-Germain, à Paris. Miguel Benassayag, vivant, présentera son nouveau livre aux éditions de La Découverte qui s'appelle La Fragilité. Puis encore une petite chose à vous dire, GB a dévissé son billard, l'artiste, dessinateur, tout ce que vous voudrez, et surtout ami, a eu le mauvais goût de dévisser son billard cette semaine, mais vous pouvez vous consoler en vous précipitant sur ses bouquins. J'espère qu'on les trouve tous, mais je suis sûr qu'on trouve un des plus beaux livres de GB qui s'appelle Un pas de côté, et c'est aux éditions Buchet-Chastel, un très beau livre avec des dessins super pour se balader, rêver et continuer d'aimer ce qu'était GB et ce que nous étions avec lui.
Je viens d'écouter les émissions sur le Rwanda. Je voudrais faire plusieurs remarques. Je suis maman française blanche de 2 enfants métis africains. Il est important de signaler les responsabilités qui sont de part et d'autre. La vision un petit peu angélique qu'ont certains de l'Afrique. L'Afrique est violente. L'Afrique a de gros problèmes. L'Afrique a des dirigeants qui sont effectivement corrompus, pourris. Nous avons une part de responsabilité énorme dans ce qui peut se passer, mais il ne faut pas se voiler la face. Les problèmes sont partout. Ils viennent du poids de l'Occident sur l'Afrique, mais ils viennent aussi de ce que l'Afrique ne veut pas faire elle-même, de cette violence, de cette destruction qui est en train de se mettre en place sur tout continent africain. Il faut en être vraiment, vraiment conscient. Il ne faut pas que certains médias pensent que l'Afrique n'est que victime. L'Afrique est aussi responsable. Dans la généalogie de mes enfants métis, leur grand-père, qui était un chef local, a fendu des esclaves pour la traite esclavagiste. Tout se tient, tout est responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité au Rwanda, comme là la Belgique, mais l'Afrique aussi a de grandes parts de responsabilité. Il faut qu'elle grandisse, qu'elle mûrisse. Et que nous aussi, occidentaux, nous arrêtions de les prendre comme des enfants, de les maintenir en tutelle. Nous sommes tous responsables de ce qui s'est passé. Les Africains sont responsables de leur propre vie, et nous les Occidentaux, nous le sommes aussi, parce que nous avons fait depuis des siècles.
Voilà, c'est une réaction suite aux émissions sur le Rwanda. Je n'ai jamais entendu dans les médias que nous étions tous des Rwandais. Et je n'ai jamais entendu également que l'on fasse une proposition d'une minute de silence pour le Rwanda. D'ailleurs, je pense qu'il faudra plus d'une minute de silence, il faudra peut-être même quelques heures de silence. Marqué, on avait déjà commencé à le faire, parce que ça fait 10 ans et qu'on n'en a pas tellement parlé. Voilà, donc moi je me sens Rwandais, effectivement. Je sais pas si je suis tout seul. Au revoir.
Ouais, j'ai juste une question à vous poser à tous les deux. Moi, je suis venu ici il y a 10 ans. J'étais avec d'autres journalistes et avec des militaires du FPR. On a été les premiers à arriver ici le 24 mai 1994. Mmh. Il y avait des cadavres partout. Il y en avait dans l'église, il y en avait ici, 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 là, et après, des montagnes de cadavres. Là-bas, dans la cour, dans les cadavres, on a vu un enfant qui bougeait encore, qui était encore vivant. Cet enfant, c'était une petite fillette de 13 ans qui s'appelle Valentine. On l'a sortie de là. Mmh. C'est la seule survivante du massacre de Nyarubuye. J'ai une question à vous poser à tous les deux. Est-ce que vous pourriez venir en face d'elle, la regarder dans les yeux comme ça, et lui dire pardon?
Rien.
Non.
Et dans ces bâtiments-là, surtout dans ces... Tiens, regarde, tu vois. Il y a les orchidées. Il y a les orchidées, il y a ces fleurs blanches, et les mêmes fleurs blanches, et les mêmes orchidées qu'il y a 10 ans. Le même beau ciel bleu. Et tu vois, là-haut, dans ce clocher, c'est dans ce clocher que les deux garçons ont réussi à survivre.
Parce que le lieu a l'air complètement déserté. Il n'y a aucune vie.
C'est
peuplé de fantômes, quoi.
Peuplé de fantômes, oui, et ces fantômes nous hantent à l'occasion de ce 10e anniversaire du génocide du Rwanda. C'est vrai que il y a comme une hantise qui revient et qui s'étend partout, à travers notamment cette polémique sur la responsabilité de la France, sur notre culpabilité, notre responsabilité individuelle, collective, celle de nos élus, de ceux qui parlent en notre nom, de la communauté internationale, du Rwanda lui-même, et qui est responsable, qui pourrait porter le chapeau, qui pourrait porter le chapeau afin que je sois débarrassé de ce poids, moi, vous, et c'est ce qu'on entend dans le répondeur de là-bas, si j'y suis. Mais je rappelle ce que disait cet écrivain suédois, l'auteur de Exterminer toutes ces brutes, ce livre formidable qui cherche à établir une généalogie des génocides. Il commence son livre comme ça en disant Vous en savez déjà suffisamment, moi aussi. Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le courage de comprendre ce que nous savons et d'en tirer les conséquences. Le courage de comprendre ce que nous savons et d'en tirer les conséquences. Concernant cette polémique sur l'implication de la France dans cette catastrophe, dans ce génocide, on en a parlé au début de cette semaine, on en parlera peut-être dans les émissions prochaines, mais je voudrais revenir sur un seul point qui devrait faire que ceux qui rejettent toute responsabilité de la France pourraient réfléchir un tout petit peu, mais sur un seul point. Nous avions des accords militaires avec le Rwanda que nous avons signé en 1975. Et la France était présente au Rwanda jusqu'au cours de l'opération turquoise en juillet 1994. Ça fait combien ? Ça fait presque 20 ans ? Oui, ça fait presque 20 ans. Presque 20 ans où la France a eu une influence très importante sur ce tout petit pays. Et dans ce tout petit pays, les habitants de ce tout petit pays avaient avec eux, sur eux, dans leur poche, une carte d'identité qui comportait une mention ethnique, leur ethnie. Hutu, Tutsi ou Twa. TWA, c'est une autre ethnie dont on parle très peu d'ailleurs, qui concerne à peu près 1% de la population. Ce marquage ethnique avait été imposé par la colonisation belge au tout début des années 30. En 20 ans, personne en France n'a eu l'idée de demander, de faire pression sur ce gouvernement pour qu'il fasse disparaître, exiger la suppression de la mention ethnique sur la carte d'identité. Or, c'est ces cartes d'identité, c'est ces mentions ethniques qui ont permis de trier ceux qui allaient mourir et ceux qui allaient tuer. Là, il y a une responsabilité. On pourrait au moins dire ça. Aujourd'hui, donc, comme je le disais en commençant, on va, avec leur accord, confronter les uns et les autres. On reste dans ce petit village de Gitwe, commune de Rikera, non loin de Niarubuye, où on va, avec l'accord du procureur, avec l'accord des gardiens d'après du directeur de la prison, avec l'accord évidemment des détenus et des prisonniers, et puis d'abord, avant tout, avec l'accord des victimes, on va essayer de voir ce que ça donne, une confrontation, quand des gens, bourreaux et victimes se rencontrent, se regardent, se parlent, se tendent la main. Quelle est la sincérité dans tout cela? Quelle est l'obligation? Quelles sont les idées, les pensées qui n'affleurent même pas, qui ne trouvent même pas leurs mots? C'est ce qu'on va essayer aujourd'hui. Sachant que il y a 1 million de victimes environ, les chiffres sont tout à fait discutables, mais c'est un chiffre énorme, qu'il y a environ 250 000 auteurs directs de crimes ou complices actifs et directs, c'est une évaluation bien évidemment, 250 000 personnes impliquées à un degré moindre, c'est-à-dire destruction, incendie, pillage, etc., et qu'il y a 20 000 génocidaires de catégorie 1, c'est-à-dire les organisateurs, planificateurs, hiérarques, locaux, miliciens et tous ceux qui ont appelé au meurtre, comme des journalistes, des préfets, des bourgmestres, etc. C'est pour donner une idée de la difficulté à rendre la justice dans ce pays en 1994. Nous disions il faut de la justice, il faut que la justice se fasse au Rwanda, mais c'était un vœu pieux. Quelle justice et quel oubli. Vous en savez déjà suffisamment. Moi aussi, ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le courage de comprendre ce que nous savons et d'en tirer les conséquences. Alors donc, comme prévu, on retrouve nos amis d'hier. Aujourd'hui, on retrouve d'abord Jacqueline, qui est donc dans ce village de Gitwe. Jacqueline fait partie des témoins des rescapés qui témoignent. Elle veut parler. Il y en a beaucoup qui ne veulent plus parler. Non pas par peur, non pas, mais qui refusent de parler parce que ça ne sert à rien, parce qu'ils sont offensés, ils souffrent de la légèreté avec laquelle on punit, de la légèreté avec laquelle on fait la justice. Aussi du fait qu'ils sont isolés, méprisés, ils se sentent méprisés et que leurs souffrances ne sont pas prises en compte par la collectivité. C'est leur le sentiment que beaucoup d'entre eux ont dans leur dénuement, dans leur relégation, soupçonné qu'ils sont les uns et les autres de vivre tout simplement. Hein? Si t'es survivant, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que t'as fait pour survivre? Ce poids, ce soupçon, c'est une continuation de la souffrance par d'autres moyens. Et puis évidemment, chacun d'entre eux est une sorte de cimetière vivant, cimetière ambulant, avec tous les morts à l'intérieur, tous les morts de la famille, les gens qui ont les leurs, qui ont disparu. Donc c'est une souffrance terrible. Certains préfèrent se taire et d'autres veulent parler. Et Jacqueline en fait partie.
Oui,
tous sont morts.
Famille et aussi. Yacht.
Toute ma famille, proche et élargie, elle est restée à Nyarouye. Ils sont tous morts. C'est beaucoup de gens. C'est mon père, ma mère, mon oncle, mes tantes, les enfants de mes oncles. Je ne peux pas les compter.
Est-ce qu'il vous semble que ce qu'on fait est juste, les tribunaux, les gachacha, etc. Est-ce qu'il vous semble que c'est juste?
Tous ces gens qui étaient à Nyarubuye, ce que je voyais à Nyarubuye en train de tuer, je les vois maintenant revenir. Ils ne sont pas en prison. Tous ces grands inhérents qui ont tué beaucoup de gens, ils ont écopé de 15 ans seulement. C'est quand même scandaleux. Il y a des fois où tu l'accuses parce que tu l'as vu tuer. Tu l'as vu en train de frapper à la machette. Une semaine après, il est coupé de 5-6 ans. C'est quand même scandaleux. Il y a par exemple cet inéramwe, ce marouni-rouni, que je connais bien, qui a tué des gens. Il y a une famille, par exemple, que je connais. À lui seul, il a tué toute la famille. C'était des rescapés du massacre de Nyarubuye. Ils sont rentrés au village. Pourtant, les Inéramou avaient dit que les filles et les femmes ne seront pas tuées. Quand ils sont arrivés ici, toute la famille a été tuée par cet Inéramou. Il est en prison, il s'appelle Guitera. C'est Guitera. Guitera est en prison à Nsinda ou à Kibungo, je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est qu'il est en prison. Quand ils ont prononcé le jugement, je n'étais pas là. Mais j'ai assisté au procès.
Vous pourriez lui parler?
Oui, je peux lui parler.
Oui, elle peut lui parler. Guitera, vous l'avez déjà entendu, c'est l'un des détenus de la prison de Kibungo qui nous a parlé, qui a témoigné, qui a 25 ans. Il a été condamné à une peine de 25 ans, donc par un tribunal du Rwanda. Et il nous a parlé avec Silas, un autre, Laurien, un autre, et Évariste. Ils sont quatre. C'est la bande des quatre. Et ce qui est intéressant, peut-être, à indiquer, c'est que chacun, en prison, s'est fixé sur une religion. Il y en a un qui est pentecôtiste, il y en a un qui est protestant de je ne sais quelle obédience bien précisément, il y a un catholique et puis il y a un musulman, et chacun trouve là dans la religion une identité, peut-être la religion étant très importante dans ces prisons. Et eux donc nous ont longuement expliqué comment s'est déroulé, comment ça s'est passé,
ce massacre de Niaroubouye du 15 avril 1994. Et il y a toujours dans leur description, dans leur témoignage, presque la satisfaction du travail bien fait. Alors bien sûr, ils ont toutes les excuses qu'on peut imaginer. On avait des ordres, c'était la guerre, on pouvait pas faire autrement, c'était le mal qui était entré en nous. Enfin, tout un tas de choses, d'excuses pour vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis du monde. Mais il y a aussi ce souci paysan du travail bien fait.
Les gens qui ont pu s'en sortir, c'était des gens qui ont fait semblant d'être morts. Il n'y a personne qui a pu s'échapper. Les gens qui ont pu s'en sortir, c'était des gens qui ont simulé d'être morts.
Donc vous les avez achevés?
Oui. Nous, nous les avons achevés. C'était des mourants.
Y compris des enfants.
Tout le monde, les femmes, les enfants, tous étaient dedans.
Combien de temps vous avez travaillé comme ça?
On n'a pas fait plus de 2 heures. C'était autour d'une heure et demie, 30.
Alors voilà, nous partons avec l'autorisation, donc comme je disais, du procureur, des autorités. Nous emmenons ces 4 détenus dans leur étrange pyjama rose, costume rose. Nous les emmenons, ils sont sortis de la prison et nous les conduisons au village de Guitoué. Ils sont dans la voiture qui nous précède, dans un pick-up. Ils sont debout dans ce pick-up et il y a un garde. Qui les garde. Il a une Kalachnikov à l'épaule dont la bretelle est une ficelle, et avec les chaos du chemin, la ficelle lâche et la Kalachnikov tombe sur la piste. Il faut donc s'arrêter pour que, dans la rigolade générale, le gardien ramasse son arme et remonte à bord. Dans les villages que nous traversons, le long des maisons, des bananeraies, des champs de haricots, eucalyptus, sorgho, de temps en temps, les gens, évidemment, on passe pas inaperçu, la petite procession ne passe pas inaperçue et les gens regardent. Alors il y a ceux qui ont des regards consternés en voyant ces prisonniers sur cette camionnette, et puis ceux qui les reconnaissent. Ceux qui les reconnaissent et qui sont effrayés parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Et puis ceux qui les reconnaissent parce que ce sont des amis. Et alors on se salue chaleureusement, d'un salut très fraternel et très amical. On traverse donc ce paysage où on comprend pourquoi les costumes roses, pourquoi les pyjamas roses. C'est que tout est vert au Rwanda. C'est les 1000 collines, c'est un pays verdoyant, c'est un pays fleuri, c'est le pays des orchidées. Et habillé en rose, on n'irait pas loin dans le paysage. C'est pour ça que l'arme du gardien n'est pas très utile. Le rose suffit. Alors on arrive dans ce village de Guitoué, de la commune de Rukera, la piste de rouge, de terre rouge, la territe rouge, et puis de chaque côté quelques maisons, des maisons de terre recouvertes de tôle, rien d'autre. Si à droite, une maison. Si on a l'œil, qu'on commence à voir l'œil au Rwanda, on voit qu'elle est un petit peu particulière avec sa porte entrouverte et une feuille de bananier accrochée à la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle le cabaret. C'est là qu'on va boire l'Uruguagua, cette bière qu'affectionnent particulièrement les gens des collines, une bière qu'on fabrique soi-même avec de la banane qu'on fait fermenter et qui fait 15 degrés et qu'on boit avec une sorte de paille comme ça à longueur de journée. C'est là qu'on arrive, donc nos 4 zigotos dans ce pick-up, et nous derrière, nous arrivons dans ce village.
Tout le monde rigole là, hein, ça fait peur à personne quoi. Le retour des génocidaires dans le village, là, on a ramené ces quatre gars dans leur patelin là à Guitoué. Ils sont là dans ce pick-up. On les a amenés là peut-être pour une confrontation avec une victime.
Oui.
Mais ça a pas l'air d'émouvoir beaucoup le monde, hein. Bonjour.
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 Comment?
Bah, ils se retrouvent, hein. Vous vous connaissez?
Oui, nous
hein?
Nous connaissons.
Moussa. Alors attends.
C'est celui qui a tué son papa.
C'est lui qui est dans le camion, il a tué son papa?
Le petit vieux.
Le petit vieux là-bas qui est dans le camion, c'est lui qui a tué ton papa?
Oui.
Voilà, tu serres la main à celui-là. C'est bienvenu au village, il se serre la main. Alors toi, tu as tué son père?
Oui,
c'est moi.
Oui,
c'est moi, mais bon, c'était la guerre, quoi.
Comment il s'appelait son père?
Clément.
Il s'appelait Clément.
Clément. Et là, tu serres la main à l'assassin de ton père.
Tchan.
Oui, bien sûr.
Ton père, il a été tué à Niaroubouye. Le 15 avril.
Oui.
1994.
Ma mère est restée à Niaroubouye, mes enfants aussi.
Ils sont morts là-bas?
Oui.
Voilà. Tout se passe comme si on arrivait dans un village tout à fait normalement, comme si rien ne s'était passé de bien particulier. Mais enfin, la conversation avance.
Comment tu t'appelles?
Dites quoi, Renzo?
Je m'appelle Renzo.
Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu as du remords?
N'était la guerre, ni t'était les autorités. Je crois que je n'aurais pas fait ça. Je regrette.
Tu te souviens de lui quand tu étais enfant?
Oui, c'était notre voisin.
Ici, dans le village?
Oui, on s'entendait comme les convenances exigent entre voisins. Non, en fait, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est entré en nous. Je ne peux pas expliquer ça. Mais soudain, tout est arrivé, quoi.
Quand est-ce que tu finis ta peine?
J'ai
15 ans de prison. Je suis à ma 8e année.
Dans ces temps, quand tu vas sortir, tu vas aller où? Tu vas revenir ici au village?
Oui, je rentrerai. Si jamais on me donne une liberté provisoire, eh bien, je rentrerai chez moi ici à Guitoué.
Il sera comme des milliers, des dizaines de milliers de bourreaux qui sont entrés dans leur village et les familles des rescapés doivent voir ces gars, les assassins, près d'eux. Tout près d'eux. C'est un cas tout à fait inouï dans l'histoire, probablement ce que la convenance exige entre voisins. Le fils de Clément, le fils de la victime, regarde quand même Renzao d'une certaine façon.
Je ne peux pas l'admettre. C'est pas vrai. Je ne peux pas admettre que ça soit quelque chose qui est entré en eux d'un coup, soudainement. Non, c'était pas possible. C'était quelque chose de préparé depuis longtemps.
Alors, on va tricher ça.
Et
nous pouvons dire que l'État
nous enseigne qu'on doit vivre ensemble.
Nous
avons perdu nos parents, nos proches. On les a tués pour rien. Mais ça nous fait très très mal.
L'exemple
que je donne, le vieux que vous avez amené, lui-même le reconnaît qu'il a tué notre père. Il a tué exprès, il n'avait pas de conflit avec lui. Ça ne peut pas nous enchanter, puisque la peine qu'il a écopée, c'est de, juste 16 ans. C'est scandaleux, c'est honteux.
Et encore, c'est lui, honteux. Il avoue, il reconnaît le vieux.
Est-ce que reconnaître qu'il a tué, ça l'exonère du crime?
S'il
pouvait expliquer
au moins
ce qui les a poussés à tuer.
On le dit qu'après les tueries, ici à Rukera, ils venaient boire des coups. Est-ce que vous faisiez la fête?
Ce jour-là, on n'a même pas bu. Nous sommes arrivés ici fatigués. Nous avons quitté à 17h, nous sommes arrivés ici vers minuit, 1h du matin. On n'avait pas le temps d'aller faire la fête, on était fatigués.
Bah oui, ça crève hein, de tuer les autres.
Le trajet d'ici à Nyarubuye et revenir, c'est quand même fatigant, ça crève.
Ouais.
Voilà, alors on est dans ce village et on attend Jacqueline qui vient de nous parler il y a quelques instants, vous l'avez entendu. Je rappelle très très brièvement, elle a survécu à ce massacre parce qu'elle a été prise comme esclave sexuelle par ses tueurs, et elle est restée jusqu'en 96 avec l'un d'eux dont elle a eu un enfant, et c'est elle qui témoigne, qui a voulu témoigner, qui a accepté cette fréquentation en latin.
Elle est là, Jacqueline?
Jacqueline, elle est en train de se préparer.
Ah, d'accord. Mmh.
Parce qu'elle venait du champ, elle était en train de se préparer.
Pour venir discuter avec elle.
Pour qu'elle se sente à l'aise.
Ah, voilà, Jacqueline. Alors, bonjour Jacqueline.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va.
Écoutez Jacqueline. Mais alors, vous serrez la main de cet homme-là?
Mais c'est un assassin.
Je dois lui serrer la main, je dois lui dire bonjour.
Ça marche très bien.
Elle me dit qu'elle ne peut pas parler ici dehors.
Ah d'accord, ok. On va à la maison? D'accord.
C'est une drôle de situation dans laquelle on est, dans ce petit village de Gitwe, 10 ans après. 10 ans après le génocide, on est dans une petite maison, dans la pièce principale d'accueil de cette petite maison, et il y a une table avec des fleurs artificielles posées au milieu de la table, sur la nappe. Ça vient d'être fait, ça vient d'être posé pour nous recevoir. Et d'un côté de la table, il y a Jacqueline qui nous a raconté son histoire, et qui est une histoire terrifiante puisqu'elle est une des rescapées de Nyarubuye. Et puis de l'autre côté de la table, il y a un génocidaire, c'est-à-dire un gars qui était là-bas et qui a tué et qui en a pris pour 25 ans. Et voilà, ils sont chaque côté de cette table et ils se regardent. Mais ils se sont serrés la main, là, tout à l'heure, devant la maison, et ils se sont serrés la main. Jacqueline, c'est la première fois que vous vous renvoyez?
Ils sont déjà venus une fois ici, pendant les tribunaux des communes, je l'avais mm-hmm. déjà vu.
Gitera, c'est la première fois que tu reviens, toi?
Pendant les procès, je suis venu ici, je suis déjà venu ici, c'est pas la première fois que je viens.
Qu'est-ce qu'on vous a demandé pendant les procès, Jacqueline?
Ils nous ont demandé de dire comment on a été rescapés de Nyarubuye et comment on les a vus là-bas.
Gitera, à quoi tu penses en ce moment?
Quand je me rappelle les images qui défilent de leurs frères et sœurs qui sont morts et qui sont morts alors qu'ils ne m'avaient rien fait. Ça me fait mal, je regrette.
Jacqueline, est-ce que tu crois ces regrets, tu acceptes ces regrets?
Niba yumva afite agahinda nta sinde simba ndeba ku mutima we ukatekereza koko niba bivugisha ukuri cyangwa se aho byabereye nta numuntu turi bwabone ngaze asaba imbabazi.
Je ne sais pas si c'est vraiment la vérité parce que je ne peux pas savoir ce qui est à son cœur. Et puis on n'a jamais vraiment entendu la vraie histoire de ce qui s'est passé. Et ils ne sont jamais venus nous demander pardon, alors je ne peux pas savoir.
Avant le génocide, vous vous connaissiez tous les deux ?
Narimos.
Oui, je la connaissais.
On se connaissait, on était des voisins.
Jacqueline, pendant le massacre à Niaroubouye, tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu et je pense que lui aussi il peut le dire.
La même question, Guitera, est-ce que tu te souviens d'elle pendant le massacre ?
Oui, je suis rentré avec elle après le massacre. Nous sommes rentrés ensemble de Niaroubouye après avoir massacré. Mais je ne suis pas rentré avec elle. Nous sommes séparés, arrivés ici. Et les miliciens, c'est eux qui les ont ramenés ici.
Et pourquoi ?
C'est peut-être Dieu qui avait fait ça, puisqu'ils ont eu la vie sauve. Je ne vois pas comment je peux expliquer cela.
Alors Dieu, oui, peut-être, mais enfin, surtout, si Jacqueline a eu la vie sauve, c'est qu'elle a été choisie, entre guillemets, par ses tueurs comme esclave sexuelle. Voilà le miracle que Dieu a permis. Une autre femme est entrée pendant la conversation, c'est Flora, c'est une voisine. Lors de notre visite précédente dans le village, Flora ne voulait pas parler. Et puis là, elle est venue. Elle nous fait confiance désormais et elle s'assoit et elle participe à cette confrontation. Flora.
Bonjour Flora. Alors Flora, elle a une histoire terrible, très très dure. Elle est restée comme Valentine parmi les cadavres. Elle a survécu 30 jours,
mais pas au même endroit. Donc pendant tout ce temps-là, vous vous êtes pas vus du tout.
Imirambo irabora inyo zirandya ntazi ibintu byarivyo nkabaho gusa nta bwenge ngira.
En fait, ce n'était pas une question de savoir s'il y avait d'autres personnes parce que quand on m'a frappé un coup de massue sur la tête, j'ai perdu connaissance. Alors je n'ai pas su tout ce qui s'est passé après, je suis restée dans les cadavres. Les cadavres se sont décomposés, je ne savais pas et je n'ai rien su.
C'était le 15 qu'ils sont arrivés.
Ils sont arrivés vers 15h.
Ils sont arrivés vers 15h. Et là, Guitera, toi, tu faisais partie de ceux qui sont arrivés à 15h.
Oui, oui. On nous a dit qu'il fallait aller tuer les Tutsis. J'avais une machette et un gourdin.
Est-ce que tu aurais pu refuser ?
Non, c'est les autorités qui nous avaient dit de faire ce qu'on a fait.
Non, mais est-ce qu'il y en a qui ont refusé, qui ont dit « moi, j'y vais pas » ?
Tout le monde a accepté, tout le monde a dit oui. Personne ne s'est levé pour dire non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Flora, tu te souviens d'avoir vu Guitera?
Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu tuer. Je l'ai vu après que les gens soient morts déjà. En fait, je m'étais cachée et tout le monde me piétinait. De façon que même aujourd'hui, des fois, je me dis que de ce côté-ci, de la mâchoire, j'ai l'impression que c'est paralysé. On était en train de tuer, il frappait par-ci, par-là. C'est alors que j'ai vu Jacqueline passer par la fenêtre.
Oui, ce qu'elle nous a raconté, c'est l'histoire que nous a raconté Jacqueline, comment elle a réussi à se sauver par la fenêtre et comment ensuite elle a été récupérée. Donc toi, tu as vu Jacqueline s'enfuir et toi, tu étais recroquevillée.
Ubwo bwo bwanyisha abantu bose bapfuye none nko nza gusohoka
Alors, ils ont continué à tuer et puis ils sont partis. Vers 17h, 17h30, je me suis levée et je suis sortie. Quand je suis arrivée à l'extérieur, j'ai vu quelqu'un qui venait vers moi. Il m'a dit que je dois lui donner de l'argent. Je lui ai dit que tout l'argent que j'avais, je l'avais déjà donné. Et c'est alors qu'il m'a, frappé par ici.
Sur la tête, là. Il montre ses plaies au-dessus de l'oreille, sur le côté du crâne. Et là, des traces d'une hémiplégie encore sur le visage.
À partir de ce moment-là, j'ai perdu toute ma connaissance. Je n'ai rien su d'autre. Je ne savais plus si on s'était réfugié là-bas. Je ne me suis pas levée de l'endroit où j'étais tombée. Je suis restée là-bas. Je n'ai pensé à rien d'autre. Alors, je suis restée là-bas dans ces cadavres-là. Les personnes en étaient venues les tuer le 15. Et le FPR, les Imotani qui sont venus, ils m'ont trouvée là à la même place le 15 du mois qui a suivi.
Mais, Guitera, quand tu entends ça, qu'est-ce que tu penses en ce moment, 10 ans après, qu'est-ce que tu penses en entendant une chose pareille?
Quand je pense à tous ces gens qui sont morts, alors qu'il n'y avait pas de problème entre nous.
C'est
pour ça que ça me fait mal. Je regrette, j'ai des remords. Et je demande toujours à Dieu de me pardonner pour tout ce que j'ai fait.
Laura, est-ce que tu sais qui t'a frappé?
Je ne veux pas dire son nom maintenant.
Mais tu le connais?
Oui, je le connais. Je le connais et je sais qu'il n'est pas encore rentré au pays.
Il est en Tanzanie.
Il est toujours en Tanzanie.
Et comment vous vivez aujourd'hui, Flora?
Ma vie, ce n'est que je me fais toujours soigner. J'ai été me faire soigner à l'hôpital Roi Faisal à Kigali, mais ça ne me donne rien. Mais même aujourd'hui, tu ne peux pas savoir que je prends des médicaments. Il y a beaucoup de saletés, de choses qui sortent de ma plaie.
Qu'est-ce que vous avez comme aide? Les rescapés, Jacqueline, vous, qu'est-ce que vous avez comme aide?
On n'a rien parce que l'État ne nous donne rien.
Guitera, tu as des enfants?
Attends. J'ai 5 enfants.
Quand tes enfants te demandent pourquoi tu es en prison, pourquoi tu as tué, qu'est-ce que tu leur réponds?
Ils ne peuvent pas oser me demander ça, ils ne me demandent jamais ça.
Mais ils te le demanderont un jour.
Je leur dirai, comme je l'ai dit, que je les ai tués. Quand je les ai tués, je n'y avais pas réfléchi. C'est arrivé soudain.
Jacqueline et Flora, est-ce que vous avez pensé à vous venger?
Je pense que si nous avions voulu nous venger, nous l'aurions déjà fait. Mais nous ne l'avons pas fait.
Pourquoi?
On n'aurait pas pu verser autant de sang que ce qu'eux, ils ont versé.
Flora, vous avez pensé à vous venger, vous, à faire la justice vous-même?
Je n'aurais même pas eu la force de me venger. La seule façon qu'on aurait eu de nous venger, c'était que eux ils soient tués par les Inhotani. Mais ils ne les ont pas tués et ils les ont mis dans des camps de solidarité pour les enseigner. Ils leur ont donné à manger, ils leur ont donné des vêtements. Mais il y en a ceux qui ne sont pas connus, qui sont là, qui vivent avec nous, qui ne sont pas en prison.
On est dans une situation très tendue, hein. C'est très très tendu dans cette pièce. Il y a des gens dans notre dos qui écoutent. Je m'aperçois qu'il y a des gens dans mon dos, mais je ne les ai pas entendus depuis le début. Donc ça veut dire qu'ils ont été très silencieux, très attentifs. Là, il y a toujours cette table qui, avec ce petit bouquet de fleurs artificielles là, qui sépare les victimes, les deux femmes victimes du bourreau. Et est-ce que c'est la première fois que vous vous trouvez face à face ?
C'est la première fois qu'on se parle.
Flora ?
Oui, moi aussi.
Je pense que ça ne me fait plus rien. Je pense que je suis déjà morte et que... Parce que même maintenant, si me tuait, si quelqu'un a me tuait, ce ne serait pas très difficile parce que je suis déjà morte.
Comment on dit les morts de l'intérieur, les morts que, dont la mort n'a pas voulu ?
La mort n'a pas voulu de nous. On était avec les autres, mais ils sont morts. Et nous, nous ne sommes pas morts.
Merci Jacqueline, Flora, Valentine, Madeleine, Pierrot, Martin, Steve, Simba, Guitera, Évariste, Silas, Laurien. Traduction Maurice et Alice. Montage Yann Chouquet. Reportage Guy Ventil. Technique aujourd'hui Olivier Daligo et Ludivine Caron. Répondeur Christophe Imbert, le numéro 01 56 40 37 37. Montage Yann Chouquet. Assistant Antoine Chao. Et c'est Koyen Guyen qui a réalisé cette émission. Modeste et génial, réclame.